Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
18h02 sur les ondes de Radio Campus Angers. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du pédalo. Au programme ce soir, attendez, je vais vous surprendre, on reste encore une fois avec les trois coups. Cinquième salve de diffusion avec nos partenaires de l'association de théâtre de l'Université catholique de l'Ouest qui, courant du mois de mars et pendant plus d'une semaine, ces étudiantes ont pu permettre à d'autres de produire, de mettre en scène et de jouer des pièces de théâtre diverses et variées. Elles étaient tellement motivées qu'elles ont même fait des interviews pour mettre en valeur leurs joyeux camarades. On écoutera la présentation d'une nouvelle pièce organisée par les Trois Coups. Celle d'aujourd'hui s'appelle Pinocque. Vous entendrez également un reportage Pensée Locale en partenariat avec la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Ajustez votre gilet de sauvetage, le pédalo met les voiles.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Et tout de suite, on embarque avec les Trois Coups pour une immersion dans une pièce de théâtre. Celle qu'on vous présente ce soir s'appelle donc Pinocque.
Les Trois Coups. Décryptage de la 31e édition du Festival des Arts de la Scène à Angers. Sur les ondes du 103 FM.
Bonjour Johanna Planchenot, tu es metteuse en scène de Pinocque et Barbie, la pièce Pinocque et Barbie, écrite par Jean-Claude Rimbert et présentée dans le cadre du festival Les Trois Coups. Bonjour Constance Varaigne et Quentin Leclerc, vous êtes comédien dans cette même pièce qui joue du coup dans le festival Les Trois Coups en Bazin à l'Université catholique de l'Ouest. Dans une discussion, Johanna, tu nous as dit que tu avais choisi de mettre en scène cette pièce au PIF. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce choix ?
J'avais vraiment très envie de mettre quelque chose en scène. C'est un désir que j'ai depuis longtemps et avec les Trois Coups, c'est vrai que c'était une bonne opportunité de me lancer là-dedans cette année. C'est vrai que j'avais pas vraiment d'idée à l'avance de ce que je voulais faire. En tout cas, je suis allée à la BU de Luco, tout simplement, et j'ai lu plusieurs livres. Et c'est vrai que Pinocchio et Barbie, ça m'a interpellée parce que c'était à la fois une pièce qui avait un ton humoristique, un peu enfantin, avec vraiment une vraie morale derrière. Et c'est pour ça que j'ai choisi ça. Donc, oui, je l'ai choisi au pif, mais bon, il y avait quand même quelque chose de réfléchi derrière. Donc voilà.
C'est vrai que cette pièce montre la situation des pays en développement et la gravité dans laquelle ils vivent entre la pauvreté et la guerre. Comment fait-on pour mettre en scène des jouets, Pinocque et Barbie, et des pantins dans un contexte comme celui-ci ?
C'est vrai que ça a été un peu un challenge d'adapter une pièce pour les enfants, de base, alors qu'on savait qu'on allait s'adresser à un public... d'étudiants, donc c'était pas non plus le sujet d'en faire une pièce jeune public. Après du coup je pense qu'on a trouvé le juste milieu en fait dans le jeu des comédiens plus que dans la mise en scène. Je sais pas si vous avez quelque chose à dire Quentin et Constance par rapport à ça, mais
moi je pense que c'est très intéressant d'avoir cette cette vision enfantine et pourtant une vision aussi de morale, comme tu disais, une morale très forte, une morale sur la guerre, finalement, et sur ces pays en développement. Et donc, cette force de cette pièce, c'est vraiment détourner un sujet très grave pour en faire quelque chose d'absolument très drôle et très enfantin, quoi.
Après, moi, je trouve que, justement, cette pièce n'est pas forcément que enfantin. Je trouve qu'il y a un peu une double lecture, un peu à la Disney, où on utilise des personnages, donc Pinocchio et Barbie, qui sont connus plutôt du jeune public, mais en même temps en parlant d'une réalité qui peut être comprise à la fois par les enfants, mais aussi qui touchera plus profondément les adultes, ce qui fait qu'il y aura peut-être au retour de la pièce, pour les enfants et les parents, une double discussion qui sera intéressante et qui permettra ainsi d'éveiller les enfants à cette réalité qui est parfois désobligeante.
Et ça en devient un petit peu transgénérationnel finalement.
Oui, effectivement.
C'est un sujet plutôt lourd. On suppose que le côté enfantin avec les jouets permet tout de même d'alléger la pièce, de rajouter un trait d'humour parfois. Comment vous, les comédiens, vous avez travaillé pour trouver cet équilibre dans les personnages entre la gravité et la légèreté ?
Moi, j'ai été surpris surtout pendant la première représentation d'entendre des rires, parce que j'ai pas encore conscience que cette pièce était très humoristique. C'est vrai qu'en regardant Pinocchio jouer, je me suis dit « Ah, c'est marrant ici ». Mais je voyais pas cette notion humoristique, je voyais plutôt un récit d'un conte, un récit d'une aventure invraisemblable, d'un jouet qui va dans un pays en guerre et qui fait la guerre. Enfin, je trouvais ça fantastique, mais pas forcément humoristique. Et c'est après la première que j'ai compris que c'était drôle.
Et puis on a fait tout un travail avec Johanna pour vraiment voir ce qu'étaient les personnages en profondeur. Et c'est vrai que ça a été assez important, ce travail-là, parce que si on n'avait pas fait ce taf, finalement, on se serait confronté à des personnages un peu creux. Et alors que là, il y a vraiment un fil, quelque chose d'assez linéaire qui permet de comprendre et de mieux appréhender le personnage.
C'est vrai que quand on est enfant, on peut aimer les jeux violents. Beaucoup jouent à la guerre, se battent avec des faux pistolets ou des pistolets à eau. Et on retrouve aussi cela dans les jeux vidéo. Qu'est-ce que Pinocchio est la réalisation de ce fantasme enfantin pour la guerre ?
C'est vrai que moi, je l'avais pas vu comme ça, à la lecture de la pièce, ni vraiment maintenant. Mais je pense que c'est une lecture qu'on peut en faire, qui serait intéressante aussi. Après, c'est pas ce qu'on a mis dans la pièce. Mais c'est vrai que c'est un aspect qui est intéressant aussi.
Oui, en effet, Pinocchio est un peu la réalisation du fantasme des grandes personnes qui verraient les jeunes enfants comme accros à la violence, accros à tout ça à cause des jeux vidéo. Je pense que tout simplement, Pinocchio qui devient un vrai petit garçon à un moment donné, je sais pas si... Pardon, je spoil un petit peu.
C'est Pinocchio, on connaît l'histoire.
Oui, c'est vrai, on connaît l'histoire. Donc Pinocchio qui devient un vrai petit garçon et qui dit que wow, c'est incroyable, ils ont plein de jouets, et en fait il parle des armes. Finalement c'est assez fort comme moment, parce que c'est juste un enfant qui pense qu'il va s'amuser, et il se prend en pleine face la réalité où il y a des morts, il y a de la violence partout, et lui il comprend pas, et c'est qu'à la fin ou même à la fin, finalement il comprend pas tellement. C'est nous, on a décidé de faire en sorte qu'ils comprennent avec ce chiffre à la fin des enfants soldats. Mais oui, en vrai, je pense que c'est plutôt un fantasme des grandes personnes de se dire ça, alors qu'en vrai, les enfants, ils sont pas spécialement violents à cause des jeux vidéo.
Puis cette innocence de Pinocchio elle rentre bien en contraste aussi avec le message, et ça le rend d'autant plus fort et d'autant plus impactant pour le spectateur. Enfin, même à la lecture de la pièce, c'est ce contraste qui rend vraiment le message puissant.
On parle du contraste entre du coup, la vision enfantine et la vision adulte. Justement, en jeu, le pôle universitaire ligérien d'études sur l'enfance et la jeunesse a mené une étude sur l'engagement des jeunes. Et d'après un de leurs sondages, aujourd'hui encore, 11,16% de la population interviewée pense que le droit de vote donne le statut de citoyen. Ce qui veut dire qu'ils ne considèrent pas les jeunes de moins de 18 ans comme des vrais citoyens à part entière. Est-ce que vous pensez qu'en France, les enfants sont suffisamment considérés et écoutés ?
C'est une grande question. Je pense que de plus en plus, on prend de plus en plus conscience des droits des enfants. Après, surtout en France. Si on parle de la France spécifiquement, je pense qu'il y a vraiment de l'évolution par rapport à ça. Donc je dirais que oui.
Ce qui est assez fou, c'est qu'on a pris conscience du droit des enfants, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est en Pologne, il y a eu un grand monsieur qui s'occupait des enfants, pendant la Shoah notamment. Alors, je ne me souviens plus de son prénom, et j'en suis vraiment désolée, puisque ça, c'est vraiment nul. Mais c'est un grand monsieur qui a sa statue en Pologne, et qui s'occupait des enfants, et qui s'occupait notamment de faire d'eux des citoyens. Et je trouve ça super intéressant à mettre en contraste avec un phénomène de guerre où on a l'impression que c'est pas ça le plus important. Alors que, en fait, si, c'est l'éducation de ces futurs acteurs. Et même aujourd'hui, ils sont acteurs, puisque sans eux, on dit que sans eux, la France ne pourrait pas marcher. La France ne pourrait pas continuer à avancer. Et je pense que le monde non plus. Donc tout est une question d'éducation, et tout est une question d'éducation à non pas la citoyenneté, mais à la civilité aussi. Puisque c'est grâce à tous ces jeunes-là que le monde de demain va se faire. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Quentin.
Si. Mais l'enfant, notamment d'après Aristote, il me semble, est un mineur en droit du fait qu'il n'a pas encore cette maturité qu'il acquiert justement par l'éducation et par l'élévation, et ainsi que par l'instruction, notamment auprès de l'éducation nationale. Mais cette éducation se fait tout au long de son enfance, ce qui fera de lui plus tard un citoyen qui sera construit par ses parents, par ses expériences, par ses amis. Mais je pense qu'en dessous de 18 ans et même en dessous de 21 ans, il n'a pas encore toute cette maturité de vouloir participer au bien de la communauté, ce qui est le désir normalement d'un bon citoyen. Et donc, effectivement, il doit être éduqué et voir dans la cité, dans son village, dans sa ville, dans son pays, une volonté d'élever cette patrie pour justement participer à ce bien qu'on appelle le bien commun.
Est-ce que vous avez, à tout hasard, on en parlait tout à l'heure, des actions mises en place en Pologne après du coup, la Seconde Guerre mondiale, est-ce que vous avez des exemples d'actions qui sont mises en place pour défendre les droits des enfants dans le monde? Sinon, est-ce qu'il y aurait des idées pour pouvoir aider tout ça?
Bah, je pense qu'à notre échelle, malheureusement, on peut peut-être pas faire grand-chose pour ça, ne serait-ce que s'engager dans des associations, sinon. J'ai pas d'exemple de...
Bah, il me semble qu'il y a l'UNICEF qui agit justement pour ses enfants, pour les sortir de ce calvaire qui est la guerre notamment. Mais je trouve un peu dommage de devoir intervenir en tant que citoyen ayant notre propre culture, d'arriver et de dire non, toi tu dois pas faire comme ça parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Non, il y a une culture qui est dans leur pays, c'est, malheureusement ça mène souvent à la guerre. Mais il ne faut pas arriver en tant que sauveur et dire « oui, on va vous apporter la paix ». Non, on vient vous apporter des instruments pour que vous fassiez la paix, et non pas qu'on débarque avec la paix comme pourraient faire certains grandes puissances mondiales.
Pour n'en citer aucune.
Pour n'en citer aucune.
Je trouve ça super intéressant ce que vous dites. Après, je pense que à notre échelle, on peut faire des choses. Déjà, notamment, c'est quoi le mot déjà ? Éduquer. Sensibiliser, c'est ça, c'est le mot, sensibiliser. Sensibiliser à les jeunes et les parents, nos proches, à la non-violence, à la communication non-violente, à... voilà, déjà ça, la communication non-violente et la non-violence, c'est quand même deux grandes choses hyper importantes dans la vie d'un enfant. Aussi, à écouter la parole d'un enfant. Je prends un exemple très personnel, mais mon frère et ma belle-sœur ont eu un enfant. Et chose que je n'avais jamais vue, ils essayent d'écouter leur fils, même s'il babille, même si on ne comprend pas tout ce qu'il dit. Ils essayent de l'écouter un maximum pour voir s'il ne dégage pas des mots, des compréhensions. Et ainsi, qu'il fasse un peu sa vie, son propre caractère. Et ça, je trouve ça super intéressant. Et ça montre vraiment à quel point l'enfant a aussi une volonté propre et non pas juste un copier-coller de ce que les parents ou la société voudraient de lui.
Oui, effectivement. Justement, par rapport à ça, je trouve que l'enfant, contrairement à l'adulte, écoute beaucoup plus son cœur. Il écoute beaucoup plus sa volonté de faire du bien. Il va pas chercher à faire le mal. Il veut juste écouter son cœur, tandis que les adultes, malheureusement, écoutent de moins en moins leur cœur et pensent plus avec une raison qui parfois est bonne, mais parfois et souvent est mauvaise. Donc, ce qu'il faudrait, c'est justement écouter ses enfants, se mettre à leur école, bien que nous aussi on doit les éduquer, mais se mettre aussi à leur école pour qu'on puisse réapprendre à écouter notre cœur, qui dicte notre volonté, pour enfin, avec la raison, avoir un éclairage libre sur des actes et ainsi obtenir un libre arbitre.
À la fin de la pièce, vous affichez le nombre de 150 000 qui représente le nombre d'enfants soldats dans le monde. Pourquoi avoir fait ce choix de montrer ce chiffre ?
C'est une décision qu'on a prise tous ensemble lors des répétitions, d'afficher ce chiffre, parce que ça nous paraissait important. C'est un chiffre quand même qui fait mal, qui est un peu choc, et ça allait bien en fait avec la fin de la pièce, sans trop en dire, mais avec ce qui se passe à la fin de la pièce, etc., d'afficher ce chiffre, et c'était aussi notre manière de dire on est conscient de ce chiffre et cette pièce est là pour en parler. Donc voilà, c'était une belle manière de clôturer la pièce.
Oui, et puis ça rejoint aussi la volonté. On avait un peu évincé le côté enfantin de la pièce parce qu'on savait qu'on s'adressait plus à des adultes. Donc on a voulu prendre ce chiffre pour vraiment dire aux adultes, regardez ce que les enfants n'auraient pas forcément compris.
Il fallait le matérialiser finalement.
Ouais. Exactement, et puis comme tu dis, Johanna, c'est un peu un détail choc, cette double lecture aussi, mais je pense que c'est ce côté, il y a une innocence dans toute la pièce, et à la fin de la pièce, ben non, cette innocence n'est plus innocente, et maintenant il faut s'en rendre compte. Et ce que je trouve super aussi, c'est que les gens se demandent, mais qu'est-ce que c'est ce chiffre ? Ils réfléchissent, voire ils nous demandent, voire ils regardent sur internet, et ça c'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir quoi.
Eh bien, merci, Johanna, metteur en scène de Pinocchio et Barbie, et Quentin et Constance, comédiens.
Merci à toi.
Merci, Léana, pour les questions.
C'était Les Trois Coups. Réécoutez l'émission sur radiocampusangers.com.
Les Trois Coups, une émission évidemment à retrouver sur notre site internet le www.radiocampusangers.com. On se fait une petite pause en musique avec David Walters. David Walters que vous pouvez retrouver ce soir à Tempo Rive, le festival organisé par la ville d'Angers dans le jardin du musée des Beaux-Arts. David Walters qui a été longtemps programmé sur les ondes de Radio Campus par Étienne Devesch, notre programmateur musical. Allez-y, vous allez voir, c'est super. Là, le morceau que j'ai sélectionné pour vous, Papa Cosa, c'est en feat avec Vincent Segal et Balaké Sissoko, vous allez voir, c'est vraiment formidable, avec du violoncelle et de la cora. Courez-y, vous allez voir, c'est formidable.
Personne ne peut qu'oublier. Ici, à nous savent. grands esprits partageant mes mots. Sans être pas comme moi. Akatan Soufou Vandouala. Toujours là et puis moi. Merci pour ça. Batman Chéa. Merci pour ça.
David Walters sur les ondes de Radio Campus Angers. David Walters, que vous pouvez retrouver ce soir au Festival Tempo Rive dans le jardin du Musée des Beaux-Arts à Angers. Vraiment, bon, si vous avez aimé, allez-y, c'est quand même la chance de pouvoir l'avoir ici à Angers, David Walters. Il est exactement 18h24 sur les ondes de Radio Campus Angers et il nous reste pile poil 5 minutes pour notre reportage Pensée Locale.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
L'atelier du Pignon existe depuis 2020. Elle est située au Quai Magellan à Nantes. C'est un espace ouvert dédié au partage de connaissances et de pratiques dans la réparation de vélos. Plusieurs ateliers d'auto-réparation existent à Nantes, mais l'atelier du Pignon est l'un des plus importants avec ses 700 adhérents et adhérentes par an. L'atelier propose plusieurs permanences dans la semaine et une fois par mois, un atelier en mixité choisie, c'est-à-dire sans hommes cisgenres. Pour Sarah, chef d'atelier, ce temps permet de créer un espace de confiance pour les participants et participantes, mais aussi de légitimer la pratique de la mécanique pour les femmes et les personnes transgenres, une discipline considérée encore très masculine par notre société. Un reportage qu'on écoute tout de suite.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Le 12 mai dernier, Nantes Métropole a voté un budget de 1,7 million d'euros pour aménager une piste cyclable le long de la rue Cadoire à Sainte-Luce. Si le développement des infrastructures pour le vélo est de plus en plus important à Nantes, les associations d'autoréparation sont aussi très actives sur le territoire, comme les ateliers du Pignon, situés au quai Magellan. L'atelier est géré par 3 salariés et compte 700 adhérentes et adhérents. Nous avons rencontré Sarah, chef d'atelier. Elle revient sur l'origine de l'asso.
Au début, c'était porté par une association qui s'appelait le BES, le Bureau des études spatiales, où c'était l'idée de créer des endroits pour pouvoir créer des spectacles, des machines, et des scénographies. Donc ça, c'était le BES des événements, bien sûr. Et ils ont ouvert un atelier, donc l'atelier du Pignon, qui a assez vite pris son indépendance. Du coup, s'est installé ici en tant qu'association les ateliers du Pignon. Et aujourd'hui, donc, le Pignon existe. Il fait partie des plus gros ateliers d'autoréparation de Nantes. Donc en fait, les ateliers d'autoréparation de Nantes se sont réunis sous un prisme qui s'appelle la clavette. Collectivité locale des ateliers d'autoréparation. Voilà, vélo. Et du coup, tous ces ateliers-là, on se réunit régulièrement pour pouvoir se poser des questions qu'on a en commun, des problématiques communes. Comment est-ce qu'on gère les stocks? Comment est-ce qu'on répond aux attentes de la mairie? Comment est-ce qu'on répond aux attentes des gens? Comment est-ce qu'on fait évoluer l'autoréparation? Comment est-ce qu'on essaye d'être le plus pédagogique possible avec les gens?
Et alors, vous avez plusieurs activités dans votre association. Il y a des balades, des brunchs, de désossage de vélo. Il y a aussi des événements festifs, mais aussi des ateliers de réparation en mixité choisie. Justement, on va particulièrement s'intéresser à cet atelier de mixité choisie. Déjà, peut-être revenir sur le terme mixité choisie. Qu'est-ce que ça implique ?
La mixité choisie, ça implique que pendant les moments qui sont destinés à ça, qui sont donc un temps par mois, on va essayer de donner la place à des personnes qui se sentent pas forcément à l'aise avec la mécanique ou que ça n'aurait pas concerné au premier abord. Du coup, mixité choisie, ça veut dire que clairement, en fonction de une de tes caractéristiques, tu ne seras pas le bienvenu pendant ce temps-là. Là, en l'occurrence, vu que la mécanique, c'est quand même un truc d'homme cis et dans lesquels ils se sentent à l'aise et tout ça, à l'aise ou au moins concernés où c'est pour eux, il y a plein de petits comportements qui peuvent, ou de gros comportements aussi, qui peuvent carrément gêner des utilisatrices de l'atelier, touristes de l'atelier.
Juliette, je suis venue réparer la chaîne de mon vélo et faire un diagnostic.
C'est la première fois que vous venez ou ça fait plusieurs fois?
Oui, c'est la première fois. Je suis venue parce que je connais du monde qui travaille ici et ça m'intéresse aussi de savoir réparer et effectivement mixité choisie, c'est toujours plus pratique, mieux, plus sympa. Parce que c'est plus simple de faire par nous-mêmes et voilà, c'est mieux.
En fait, on a beaucoup réfléchi à l'atelier de comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que tout le monde puisse s'en emparer le plus facilement possible. Ça fait beaucoup de questions parce que même si ici, à l'atelier du Pignon, tout fonctionne normalement, il y a beaucoup d'adhérents aussi, beaucoup d'adhérents, beaucoup de bénévoles. On a plus de 1000 adhérents par mois, par an. Oh, je m'emballe. Par an, grosse majorité d'hommes tout de même. Et pendant les permes classiques, donc celles du lundi et mercredi 16h-20h, on voit quand même une écrasante majorité de garçons. Les femmes ou autres genres qui viennent ici se sentent pas forcément à l'aise, concernées. Dans les mécanismes d'apprentissage, en soi, il y a des comportements qui sont discriminants, surtout en mécanique. Parce que ça pourrait, comme ça, de demander de la force ou demander d'utiliser des outils, ce qu'on n'a pas mis dans les mains des petites filles. Donc on a constaté qu'il y avait des comportements qui étaient un petit peu relous, mais que nous aussi, on a mis du temps à détecter, c'est normal parce qu'on a été éduqués comme ça. Mais les « laisse, je vais faire » ou les « tiens, je fais à ta place, là, tu fais mal » ou plein de choses comme ça, c'est des choses qui bloquent l'apprentissage. Donc dans une démarche pédagogique, on a essayé de réfléchir à ça. Et donc il y a tous les autres temps du mois où on essaye de sensibiliser tous les garçons qui pourraient avoir des comportements comme ça. Voilà, donc là peut-être que c'est pas adapté, peut-être que tu aurais dû demander, que faire à la place avant ça, demander c'est bien, accompagner d'une autre manière c'est bien. Donc on essaie de faire de la pédagogie la plupart du temps, mais pendant un temps dans le mois, on a aussi envie d'être peinard qu'entre personnes qui se comprennent et c'est vraiment des moments qui sont chaleureux, qui sont cocons et drôles et qui permettent un apprentissage en tranquillité.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Un reportage de Yelena Parento, de Prune.
Le Pédalo termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Demain, c'est férié, donc on se retrouve lundi. Profitez bien voilà, de cette journée fériée, quoi. C'est toujours sympa. J'espère que vous en profitez pour bien vous reposer. En tout cas, nous, c'est ce qu'on va faire. On se retrouve lundi, donc. Et d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.